18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, vous êtes à la veille, à quelques heures, peut-être pour certains d'entre vous, et bien de profiter de ce long week-end. Et nous sommes ensemble dans Les Informés pour vous accompagner, votre émission, votre magazine, où on commente, analyse, décrypte l'actualité, jusqu'à 19h30. Alors au sommaire, au menu, les galères de la grève d'aujourd'hui. Aïe, ça a sonné dans tous les sens. On va en parler justement, puisque il s'agit là effectivement, s'agit-il d'un jeudi noir ou pas, revalorisation des salaires. Peut-on réclamer plus de salaires aujourd'hui, effectivement, quand on est en pleine inflation? On parlera aussi de l'atteinte au principe de la laïcité. Figurez-vous que 720 signalements recensés en octobre, un chiffre qui est en hausse. J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure, j'en parlerai avec vous. 01 53 48 3 minutes. Ensuite, on parlera du harcèlement scolaire. En France, sont concernés 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement chaque année. Et bien, on en parlera. Et puis, on finira avec les midterms aux États-Unis. Le mi-mandat avec notamment Donald Trump qui a perdu son pari. On en parlera tout à l'heure. Et tout cela s'annonce ici même dans Les Informés. Le Quoi de Neuf avec Pascal Boniface, le patron d'Oléris, hein, la classe internationale. Ça, c'est à 18h30. Et puis, les débatteurs, les influenceurs qui sont ici tout à l'heure à partir de 18h40. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et pour démarrer Les Informés, tout de suite, l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
Pour parler, vous savez, de changement climatique, pour parler d'urbanisme, pour parler de la COP27, notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Jamal Amadou, qui est le spécialiste, il est urbaniste, spécialiste du changement climatique. Bonjour Jamal Amadou.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Ben, très bien, et vous-même?
Super, ben, très bien.
Bon, vous êtes un peu le grand urbaniste, hein, le spécialiste justement, quand on parle de changement climatique. Parlons-en justement, la COP27 qui se déroule en ce moment même, vous le savez, à Sharm el-Cheikh en Égypte. Comment vous l'avez observé, vous, cette COP27, mon cher spécialiste justement?
Écoutez Adil, cette COP27 ressemble aux 26 précédentes, c'est-à-dire que c'est un effort d'un certain nombre de pays encadré par l'ONU, qui tente, bien malgré eux, de trouver des solutions pour réduire les gaz à effet de serre afin de tenir cette évolution du climat. Vos auditeurs entendent souvent qu'il faut tenir les 1,5 degrés. Ça a l'air de rien comme ça, mais cette évolution climatique, par ses effets extrêmes, parce que c'est ça qui pose le plus de problèmes aux populations, crée des désordres, évidemment environnementaux, mais aussi sanitaires. Ça se traduit par, malheureusement, des décès, et les populations les plus vulnérables sont, en général, les plus touchées. Mais ce que l'on constate quand même, c'est que ces COP sont quand même assez impuissantes à dégager des consensus permettant de dégager en réalité une politique mondiale. Et ça, malheureusement, cette impuissance, elle se voit à chaque fois. Il suffit juste de regarder qui est présent à COP27. Alors, Emmanuel Macron a fait un discours plutôt intéressant.
Je vais peut-être vous poser la question, justement. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de son discours à Emmanuel Macron, le chef de l'État, durant cette COP27? Qu'est-ce qui retient votre attention?
Eh ben, écoutez, c'est sa formule. La solidarité ou le suicide collectif. Alors, il propose effectivement une sorte de pacte de solidarité entre économie développée et économie en développement, avec un certain nombre de priorités, la sortie des économies du charbon, le fait d'aider les économies émergentes, et puis de préserver un certain nombre d'exploitations, les exploitations des grands fonds marins, et puis la protection des forêts les plus anciennes, les tourbières, les mangroves, les zones humides, etc. Enfin, ça, c'est très bien. Mais, Adil, à cette COP, ni les États-Unis étaient là, ni la Chine, ni l'Inde.
Qui sont les plus grands pollueurs.
Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même si en France ou en Europe, on est très bon sur ces sujets, mais en réalité, nous, on n'a pas la main sur l'évolution du climat. Donc,
alors, est-ce qu'on ne court pas à la catastrophe? Est-ce que la vraie catastrophe, justement, c'est pas celle-là?
Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que la priorité des politiques publiques devrait être celle-là. Et en particulier, au niveau local. Mais ça, on va peut-être en parler.
Alors justement, Jamel, je m'attendais à ce que vous finissiez votre phrase, mais vous m'avez surpris, mon cher Jamel Amadou. Bon. Alors, localement, parlons-en justement. Vous savez, je vous l'apprends pas, vous, le spécialiste du changement climatique. On va parler de réchauffement local, c'est-à-dire en France, climatique. Et ma question est la suivante. Le réchauffement climatique, est-ce qu'il s'annonce pire que prévu? Quand on voit ces nouvelles projections, quand on voit les émissions de gaz à effet de serre, quand on voit les températures moyennes de l'Hexagone qui sont supérieures, quand on voit évidemment tout cela, vous répondez quoi, Jamel Amadou?
Alors, vous avez raison, je pense que vos auditeurs perçoivent, comme tout le monde, ces évolutions. Enfin, notre été n'a pas été normal, entre guillemets. Des épisodes caniculaires à répétition,
les vagues de chaleur.
En Bretagne, il y avait des incendies en Bretagne.
Les incendies et les vagues de chaleur, absolument.
Des vagues de chaleur. Les températures de cet automne, alors, on peut s'en réjouir, hein, on peut aller au bord de la mer, etc. Enfin, c'est totalement anormal. Avoir de telles températures. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai des amis qui se baignaient à Montpellier avec une eau à 20 degrés. Au mois de novembre, enfin, faut compte quand même de l'évolution qui est devant nous. Alors, oui, je suis moi, parfaitement d'accord avec vous. La priorité des priorités, ça devrait être ça. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Et pour l'architecte urbaniste que je suis, pour le domaine de compétences qui est le mien, je pense qu'il est urgent de nous préparer, de tester, de réaliser des modèles architecturaux urbains susceptibles de réduire de la façon la plus forte possible les impacts, en particulier sanitaires, que l'on peut prévoir. Pourquoi ? Parce que cette température qui va évoluer et qui va, elle va pas toucher la population de manière homogène. Hein. C'est les populations les plus fragiles, hein, les personnes âgées. Les personnes qui sont malades, les enfants, suivant là où on habite, eh ben, on n'aura pas la même chance de pouvoir, j'ai envie de dire, supporter ce changement climatique. Il est urgent de tester et d'évaluer les modèles architecturaux et urbains susceptibles.
Vous pensez que ça passe par là? Vous pensez que ça passe par l'urbanisme?
Alors, je pense que pour l'urbanisme, on a des leviers qui nous permettent, j'ai envie de dire, non pas de trouver des solutions aux émissions de gaz à effet de serre, je l'ai dit, ça nous dépasse largement, mais de nous préparer à avoir un cadre de vie qui soit le plus adapté possible au changement climatique. Et le plus possible, c'est important. Hein. Je trouve pour ma part, en tant qu'observateur de ces politiques urbaines, que ça ne va pas assez loin, il faut adopter une forme de radicalité.
Oui. Alors, est-ce que, je reviens à la COP27 finalement, cette COP, elle a servi à quelque chose entre nous, Jamel Amadou?
Alors, elle n'est pas terminée, elle est toujours en cours, mais quand même, États-Unis, Chine, Inde, qui boudent cette organisation, je ne vois pas bien quel pourrait être un accord global sans ces pays-là, très franchement. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste.
Qu'est-ce qu'attend la France en 2050, par exemple? On parle souvent, de cet indicateur 2050.
Alors, de 2050, Météo France, hein, travaille, et puis un certain nombre de climatologues travaillent sur des différents scénarios d'évolution du climat. Alors, bien sûr, souvent, dans les médias, ils sont résumés à plus 1,5°, plus 2°, etc. Enfin, il ne faut pas regarder ça moyenne comme ça. Plus de degrés, en fait, c'est beaucoup plus d'épisodes climatiques intenses, et c'est ceux-là qui vont générer le plus de désordre dans notre, j'ai envie de dire, dans notre quotidien et dans notre vie. Et ce sont ces événements climatiques intenses qui doivent servir d'éléments dimensionnants pour nous, pour nos bâtiments et notre cadre de vie. Nous devons construire en fonction de ces données climatiques. On a un nom pour ça, un urbanisme d'anticipation et de dissociation environnementale. Anticipation, pourquoi? C'est construire avec les données environnementales de 2050, pas celles de 2022, il faut construire avec les données de 2050. Pourquoi la dissociation environnementale? Parce que l'une des clés, a dit, pour supporter ces chaleurs, c'est les sols. Nos sols sont trop artificialisés. Mmh. Ils sont trop bétonnés, ils sont trop bitumés. Nous devons les libérer de cette artificialisation.
Vous parliez de spécialistes, justement, mon cher Jamal Amadou, vous, spécialiste de l'urbanisme et du changement climatique. Vous m'arrêtez, hein, en 2100, le réchauffement climatique pourrait être deux fois et demi plus intense que prévu.
Exactement. Alors, tout dépendra de la capacité de monde et des économies mondiales à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et très franchement, on peut être inquiet, enfin, je ne veux pas être catastrophiste, mais ouais. On n'a pas le début d'un programme d'accord entre les économies asiatiques, américaines, européennes, africaines. Je suis assez pessimiste, mais néanmoins, ayant un caractère plutôt optimiste par nature, je pense qu'en réalité, nous devons mettre le maximum d'énergie sur notre capacité à anticiper.
On a perdu. On a perdu Jamal Amadou.
Je suis là.
Ah.
Je suis là.
On vous a perdu, mon cher Jamal Amadou. Où êtes-vous?
Moi, je vous entends, Adil.
Eh bien, nous, on ne vous entendait pas, figurez-vous. Quel est le mot de la fin en quelques secondes, mon cher Jamal Amadou, puisqu'on doit marquer une pause?
Eh bien, écoutez, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser les pouvoirs publics. Et moi, je prends mon bâton de pèlerin pour parler à nos élus, pour aller vers des propositions de changement de notre cadre de vie, mais aussi de nos pratiques, savoir se remettre en cause, être capable d'accepter des contraintes, car nous ne pouvons pas continuer ainsi à artificialiser notre paysage.
Merci, monsieur l'urbaniste. Merci. Vous êtes spécialiste du changement climatique, Jamal Amadou. Vous revenez quand vous voulez, évidemment, pour parler du réchauffement climatique. Je crois qu'il est essentiel et important de suivre tout cela. Merci, Jamal Amadou.
Merci, Adil. Et merci à vos auditeurs.
Et au plaisir, évidemment, de vous retrouver ici même. Allez, on marque la première pause et on se retrouve dans une poignée de minutes, 01 53 48 3000, deux sujets que je veux, avec lesquels je veux échanger avec vous. L'atteinte au principe de la laïcité. Paraît-il que les chiffres sont en hausse, qu'on ne respecte plus du tout la laïcité et que qu'il y a certaines provocations verbales, notamment concernant certains collégiens, lycéens. Et puis je voudrais qu'on parle aussi du harcèlement scolaire. Vous, parents, 01 53 48 3000, je vous attends partout en France. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h20 et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est parti, chers amis, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et je voudrais vous entendre, vous savez, sur deux sujets que je vous soumets, justement, partout en France. Venez nous appeler. Anthony vous attend au standard 01 53 48 3000. Deux sujets. Le harcèlement scolaire. En France, alors, c'est 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement chaque année. Est-ce que vous en parlez avec vos enfants? Est-ce que vous les sensibilisez sur cette question du harcèlement? D'ailleurs, peut-être que vous ignorez vous-même que vos enfants peuvent être parfois des victimes d'harcèlement scolaire. J'en ai connu, moi, des parents qui m'ont raconté que leurs enfants étaient victimes pendant plusieurs mois et qu'ils l'ont appris par hasard, par des amis ou par une discussion comme ça. Bref, je voudrais vous entendre là-dessus en parler parce que, effectivement, quels sont les liens que vous avez avec vos enfants concernant le harcèlement scolaire? Est-ce que vous en parlez? Notamment avec ce phénomène des réseaux sociaux. Et puis, je voudrais aussi qu'on parle, vous savez, de les signalements pour atteinte à la laïcité au collège, au lycée, à l'école, qui ont plus que doublé en octobre. Alors, on parle de 720 atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées. 40% de ces incidents concernent le port, de signes religieux. Le chiffre, paraît-il, est record. Bon, eh bien parlons-en. Je voudrais qu'on en parle parce que effectivement, c'est des sujets, vous, est-ce que c'est des sujets qui vous interpellent? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez un attachement particulier? Cette histoire de laïcité, religion, les signalements que je viens, les chiffres que je viens de vous donner, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que vous en parlez aussi avec vos amis, vos enfants, etc.? Le harcèlement scolaire de la même manière. Je vous attends. Je ne vous attends, je ne bouge pas. Moi, vous savez, mais on est ici, on vous accompagne. Je sais que la France est en grève, enfin plus particulièrement Paris, l'Île-de-France, mais je ne bouge pas. Je sais que parmi vous, beaucoup vivent cette galère, cette difficulté. Ce soir-là, justement, 18h22, j'attends que le premier auditeur dégaine et qu'il nous appelle. Oui, Anthony ?
Je crois qu'ils sont timides ce soir.
Non, ils sont pas timides. Non. Ils sont pas timides. Je peux te garantir que nos auditeurs, ils sont loin d'être timides. Ils attendent simplement le déclic du premier. Mais alors, on attend que le premier dégaine. C'est vrai ?
Exactement.
Voilà. Anthony vous attend, vous savez, il attend. Il est là, il est devant son combiné. Il attend.
Prêt à dégainer.
Il est prêt à dégainer. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Même si je sais que beaucoup d'entre vous galèrent, on vous attend. Ne me dites pas que toute la France est en grève. C'est impossible.
Yannis aussi qui fait grève au niveau des transports en commun.
C'est vrai. Absolument. 01 53 48 3000, on vous attend. Ah, premier appel, justement. Et deuxième appel. Et allez, on vous attend au 01 53 48 3000. Je vous ai dit, je ne bouge pas. Les informés, on est comme ça, nous. On est là, on vous attend. On a toute la soirée. Mohamed du 91. Bonjour, Mohamed. Alors, tu vois, Anthony, ils sont pas timides. Il disait que Anthony, vous étiez timide.
Ah, pas du tout. C'est pas du tout.
Bah, dites-lui qu'il vous entende. Voilà. Mohamed, vous habitez de quelle ville, Mohamed ?
Alors, moi, j'habite actuellement à Chilly-Mazarin, dans le 91, dans l'Essonne.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Et je suis président d'une association de parents d'élèves
qui est représentée
dans les écoles de Longjumeau, parce que précédemment j'habitais à Longjumeau, voilà.
Et ben ça tombe bien parce que vous voyez là, j'ai lancé ces deux sujets. Lequel Exactement. Vous choisissez ?
Ah, faut que j'en choisisse un ?
Ou deux, ou allez-y, ou les deuxièmes, allez-y. Allez-y. Bah,
sur le harcèlement, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait pas mal d'années que les équipes éducatives, que l'éducation nationale et jusqu'à l'État travaillent dessus. Il y a un certain nombre de leviers qui sont mis en place. Que l'on remarque, nous, association de parents d'élèves, c'est qu'à l'intérieur des familles, le sujet reste encore... je vais dire peut-être tabou, mais les enfants en parlent pas beaucoup.
Ils en parlent pas beaucoup, je sais bien.
Il y a de plus en plus d'enfants maintenant qui se lâchent et qui n'hésitent pas à en parler à leurs parents. Donc on a des remontées et il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Faut savoir que les sanctions elles sont très très lourdes et ça commence vraiment à sortir tout ça, mais c'est des années de travail. Ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sujet. C'est un sujet vraiment très très important, hein. Il y a énormément d'enfants qui sont concernés.
Vous avez raison, c'est vrai. Vous avez raison, c'est vrai de le souligner. Surtout vous êtes président de parents d'élèves. Merci d'être intervenu, mon cher Mohamed.
Moi, j'invite, juste un dernier message justement concernant ce sujet-là. J'invite vraiment les enfants et les parents à questionner leurs enfants. Moi, je le fais constamment avec les miens. N'hésitez surtout pas à les questionner, parce que à leur tirer les vers du nez.
Oui, exactement. Voilà.
Concernant la laïcité, parce que je vais quand même dire un mot, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis désolé, M. Farkan, je vous prends un petit peu de temps.
Allez-y.
Honnêtement, moi je suis de confession musulmane et comme je le disais, je suis aussi parent d'élève. C'est un sujet qui commence vraiment à nous peser. Voilà. Il commence à nous peser, nous, aux Français de confession musulmane. Pourquoi ? Parce que nous sommes constamment la cible des racistes de ce pays. Alors, les racistes, je vais les nommer. Les racistes, ce sont les nouveaux laïcars qui sont en train de nous inventer une laïcité.
Vous croyez que ces signalements, vous pensez que c'est vraiment, on invente ces signalements pour atteindre la laïcité?
Je dis pas qu'on invente ces signalements. Je dis que on met le zoom sur un petit nombre de cas isolés. Et on fait croire à toute la population française, et notamment les Français qui habitent dans la Creuse, qui habitent dans nos campagnes, que c'est des cas généraux. Et en fait, on est en train de mettre de l'huile sur le feu dans une société qui n'en a pas besoin. Et là, c'est les laïcars de ce pays. Et les laïcars, ils ne sont pas au Rassemblement National. Hein. Ils ne sont pas que au Rassemblement National. Hein. Mmh. Vous pouvez en trouver à gauche comme à droite. Donc, à un moment donné, voilà, il faut aussi que nous, nos instances représentatives, disent stop. On en a marre de votre laïcité.
Eh ben vous avez passé, votre coup de gueule.
La laïcité, nous la connaissons, la loi, nous la respectons. Il n'y a aucun élève qui porte le voile ou qui porte un signe religieux à l'intérieur des établissements, puisque ça concerne l'intérieur des établissements, et qu'on arrête de nous bassiner avec tout ça.
Voilà. Eh ben vous savez quoi, je laisserai les auditeurs réagir à votre intervention, justement.
Merci, M. Turkan.
Merci à vous, mon cher Mohamed. Portez-vous bien.
Voilà,
très bon week-end.
Bonne soirée
à vous.
Tiens, je vais prendre. Écoute à la radio.
Eh ben, écoutez avec plaisir. Soyez toujours fidèles et n'hésitez pas à intervenir. Merci à vous. À bientôt. Allez, je vais accueillir Karim de Pantin. Bonjour, Karim.
Bonsoir, Adil. Comment allez-vous?
Bonsoir, mais mon cher Karim, très bien et vous-même?
Pour l'instant, ça va.
Après, j'ai Abdel de Bastia. Je vous écoute, Karim.
Bon, moi, je voudrais dire que je suis comme le monsieur d'avant, là. J'y crois pas trop à tous ces signes, parce que je vais vous raconter une simple anecdote.
Alors, et pourtant, c'est une réalité.
C'est une réalité. Faut savoir ce qu'on entend par atteinte à la laïcité. Moi, je vais raconter une anecdote. Je dis pas qu'elle est révélatrice, mais je dis que c'est pour mettre le point sur ce qui se passe exactement. Moi, j'ai... parce que bon, j'ai un certain âge, j'ai le fils de ma nièce, il y a 14 ans, qui est rentré en classe. Alors, c'est au collège Paul Angevin de Nanterre, hein, dont je le cite. Hein. Et il est rentré un matin en disant « Salam alaikum ».
Oui.
Bon. Il n'y a pas de feu au lac, hein. La prof de physique a arrêté son cours, a appelé la CPE, il a été convoqué, il a fait l'objet d'un avertissement, et il a reçu un courrier comme quoi il fallait qu'il respecte les règles de la laïcité et que les propos à contenance religieuse ne veulent pas être tenus au sein de l'établissement. Voilà une atteinte à la laïcité, par exemple.
Oui. Oui, vous avez raison. Oui.
Voilà. Et alors, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé passer 8 jours, il est rentré en disant « Good morning, everybody ». Il ne s'est rien passé. Donc, vous voyez, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il y a, une volonté à tout prix de mettre l'islam toujours en avant. Et vous pouvez remarquer, vous qui êtes journaliste, quand on passe 15 jours ou 3 semaines sans parler des musulmans, tout de suite, vous avez soit une tribune, soit un article, soit un débat, soit un sondage, soit une émission. Vous avez toujours ce phénomène de rang. J'ai l'impression que les laïcars, ils sont comme nous quand on est autour d'un barbecue. De temps en temps, il y en a un qui se lève, vous savez, pour faire du vent, pour pas que le feu s'éteint. Et c'est exact, c'est l'image que j'ai, c'est qu'il y a des gens dont la hantise, ça serait qu'on ne parle plus de l'islam, qu'on ne parle plus de la laïcité. Qu'on ne parle... Et ça leur fait passer des nuits blanches. Bon. Parce que, vous savez, on est arrivé dans une société où le mot laïcité ne veut plus dire séparation de l'Église ou de l'État, ça veut dire islam. Maintenant, quand on vous dit... Alors, il y a quelqu'un l'autre jour qui a appelé une radio périphérique, qui leur a dit, mais pourquoi vous nous permettez pas d'avoir nos écoles et le problème de laïcité sera réglé? Mais non, on vous laisse pas, non seulement on vous laisse pas, mais en plus, quand vous êtes à l'école publique, on vous stigmatise tout le temps. Et, de toute façon, il y a des professeurs qui veulent absolument maintenir ce foyer, ce feu, et pour un, comme je vous dis, salam alaikum, c'est
tout. Bon, attendez, on va poser la question, y compris, il y a des professeurs qui nous écoutent, partout en France. Karim, merci pour votre intervention.
Il est 18h.
Merci, et merci pour votre fidélité. 18h30! 31 précisément, et le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Après, j'accueillerai Abdel de Bastia. On a du beau monde, hein. Vitry, Grenoble. Restez avec nous, justement, je vous prends juste après l'autre Pascal Boniface, le président de l'ERIS. Mon cher Pascal Boniface, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous, mon cher Pascal?
Bah, très bien, très bien.
Eh ben, nous allons aller avec vous direction les États-Unis avec le mi-mandal, mi-terms. On vous écoute pour le mid-term. Je suis arrivé.
Oui, alors les mid-terms, ce sont les élections à mi-mandat. Tous les 2 ans, on vote beaucoup aux États-Unis. Il y a des élections présidentielles tous les 4 ans. Et entre 2 élections présidentielles, élections de mi-mandat, on renouvelle l'ensemble de la Chambre des représentants. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, un tiers du Sénat, mais aussi les gouverneurs, sorte de présidents de région, et puis on fait des référendums, bref, on vote partout. Ça coûte cher, parce qu'il y a beaucoup de publicité, 17 milliards de dollars, ça a coûté les élections, et d'ailleurs le poids de l'argent dans la vie politique américaine devient un problème important. parce que finalement, ce sont les gens les plus riches qui peuvent un peu orienter les campagnes, les thèmes, et on sait très bien que l'intérêt privé a plus de raisons de financer les campagnes électorales que l'intérêt public. Il est plus facile pour les labos pharmaceutiques de financer les campagnes électorales que pour les malades de le faire. Mmh. Bon, bref, en tout cas, est-il que Trump comptait triompher. Il l'a annoncé d'ailleurs peu après les élections. Il n'a pas du tout triomphé parce que les Républicains vont certainement reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, mais il n'est pas certain qu'ils gagnent le Sénat. Et en tous les cas, ce n'est en rien le raz-de-marée qui a été annoncé. Et puis, problème supplémentaire pour Trump, il y a maintenant un nouvel adversaire républicain, Ron DeSantis, qui a élu, qui a triomphé dans les élections pour le poste de gouverneur de Floride, et qui est beaucoup plus jeune, il n'a que 44 ans, Donald Trump va dépasser les 80, il est moins clivant, il est tout aussi à droite. Son programme, c'est quand même quelqu'un qui a mis plein de réfugiés hispaniques dans des bus pour les envoyer à New York, pour les faire partir de Floride, donc c'est en rien quelqu'un de généreux et d'ouvert, mais il est moins clivant dans, dans son comportement que ne peut l'être Donald Trump. Et Biden, finalement, peut être content du résultat, parce que généralement, ces élections à mi-mandat sont des catastrophes pour les présidents élus. Trump les avait perdus en 2018, Obama les avait perdus en 2010, et là, finalement, il s'en sort bien. En fait, il y a une très forte mobilisation des jeunes et des femmes, notamment pour préserver le droit à l'avortement qui était menacé par les républicains. Et donc, finalement, Biden s'en sort bien, mais en même temps, il est temps qu'il y ait peut-être une relève du côté républicain. Nancy Pelosi, 82 ans, Biden, 80 ans. Il faudrait quand même un peu de jeunesse là-dedans, parce que on voit que le président Biden, pour tout estimable qu'il soit, commence à avoir un peu des problèmes, je dirais, de dynamisme, pour rester sur un euphémisme.
Merci, mon cher Pascal Boniface. Toujours un plaisir de vous avoir avec votre décryptage concernant les sujets d'actualité. Je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Pascal Boniface.
Merci, Adil. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, sans faute. Justement, c'est le patron de l'ERIS. Merci. 18h34, nous marquons une pause. Je me retrouve avec Abdel de Bastia, Vitry et puis Grenoble. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h40, c'est si vous venez de le retrouver avant de retrouver le face-à-face, justement, 01-53-48-3000, partout en France. Nous vous attendons, chers amis. Tiens, direction Bastia, la Corse. Bonsoir, Abdel. Abdel, une fois. Abdel, la clochette, tiens, on va le réveiller, Abdel. Ça va, ça vous a réveillé, Abdel, la clochette? Abdel? Deux fois.
Oh, vous ne me réveillez pas.
Bah alors, pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui vous arrive?
Ça va, ça...
Ça va?
Allô?
Ça va, Abdel? Hey, qu'est-ce qui se passe en Corse, là?
On a un problème de liaison, je pense.
Oui, je pense. Abdel. Bon, on va essayer de vous récupérer. Je vais faire l'interview, justement, avec Pierre-Henri concernant les migrants.
Allô?
Abdel, vous êtes avec moi? Si, je ne sais pas, je pense que vous rencontrez quelques difficultés de connexion. Je pense.
Oui, je suis bien avec vous.
Ouais, on vous écoute. Alors, Abdel, bienvenue.
Et j'ai pas de difficulté, mais apparemment, on n'arrive pas à vous avoir.
Écoutez, je crois qu'il y a
Bonjour.
Un grand problème.
Bonsoir plutôt.
On a un grand problème. Non, ça va pas du tout, Abdel. Il y a quelque chose qui cloche du côté de la connexion. On a un gros souci. Si vous voulez bien nous rappeler, je pense que ce sera beaucoup plus utile parce que là, ça passe pas. Donc, ça coince. Je sais pas de quel côté, mais ça coince. Il y a un problème il y a un décalage même d'ailleurs sonore entre vous et nous. Donc, 01-53-48-3000. Je récupère les autres auditeurs dans une poignée de minutes. L'interview, vous le savez, on va parler des migrants. Allez, à tout de suite, l'interview.
Les informés. L'interview
et les tensions qui commencent à prendre de l'ampleur entre la France et l'Italie. On va en parler avec Pierre-Henri, qui est le spécialiste justement des réfugiés, des migrants. Pierre-Henri, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Qui est le président de France Fraternité. Et vous connaissez, vous, le sujet, vous le maîtrisez parfaitement. L'Italie, franchement, est-ce que... Elle n'est pas en train de s'exposer à de véritables sanctions pour avoir refusé l'accueil des réfugiés?
Vous savez, le problème dans ce dossier, c'est que c'est un véritable marronnier. Je vous rappelle qu'il y a eu une affaire semblable avec un autre bateau qui s'appelait l'Aquarius, en 2018. Il y avait 600 personnes à bord. Et il y a une constante, c'est que c'était l'extrême droite qui était au pouvoir en Italie avec Matteo Salvini. Aujourd'hui, c'est le gouvernement de Meloni qui ferme son port à un bateau comportant 234 naufragés. Et l'Italie se met ainsi en dehors du droit communautaire. Parce que le droit communautaire, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce que disent les accords qui ont été signés par l'Italie, notamment? Eh bien, c'est que dès lors qu'un bateau se trouve avec des naufragés dans ses eaux territoriales, l'Italie doit ouvrir un port sûr. Et ensuite, il y a une répartition des migrants entre les différents pays européens. Voilà, ça c'est l'accord sur le papier qui date de 2019. Sauf que, bien évidemment, Meloni avait promis de fermer ses frontières, eh bien, nous y sommes. Et d'une certaine manière, le gouvernement d'extrême droite de Meloni trouve des alliances en France avec l'extrême droite française qui ne cesse de répéter sur tous les tons, y compris à des naufragés, retourne en Afrique.
Dites-moi, Pierre-Henri, justement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, ça a été un peu compliqué pour lui. Il n'a pas eu trop le choix, justement, d'accueillir ces fameux 234 réfugiés, 234 migrants.
Ben non,
il s'est retrouvé bloqué.
Le bateau, alors, encore une fois, le problème est le suivant. Nous sommes à la fois dans l'humanité toute simple, qui est à la base des nations démocratiques, puis il faut aussi regarder politiquement ce qui se passe. Je vous rappelle toujours qu'en 2018, l'Aquarius était passé au large des côtes corses et que, pour autant, la France n'avait rien dit du tout. Et du coup, l'Aquarius était parti accoster en Espagne. Bon, là, nous sommes dans une autre situation. L'extrême droite est au pouvoir de nouveau en Italie. Et l'Italie qui a fermé ses portes, est-ce qu'on pouvait imaginer un instant, alors que SOS Méditerranée, l'Océan Viking étaient dans les eaux territoriales, que la France allait faire de même? Non, c'est inimaginable, évidemment. Donc, politiquement, il fallait accueillir. Le ministre de l'Intérieur dit c'est un processus exceptionnel. Eh ben, nous verrons bien. Moi, ce que je pense surtout, c'est que l'Union européenne est en difficulté. Évidemment, le couple franco-italien est en difficulté autour de cette affaire, mais je pense que l'ensemble de l'Union européenne est en difficulté, parce que, en fait, l'Union européenne a abandonné depuis 2016 quasiment tout mécanisme de sauvetage en mer, en laissant le soin aux États de le faire. Je rappelle que la route de la Méditerranée centrale est une des plus empruntées et des plus mortelles qui soit, et que la situation en Libye n'est pas revenu à bonne fortune. Il y a toujours des affrontements, il y a toujours des mafias qui exploitent les migrants au départ, à l'arrivée en Libye, au départ de la Libye, et que, d'une certaine manière, l'Union européenne est dans une impuissance totale. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est qu'il faut repenser une stratégie commune de l'Union européenne en Méditerranée, qui sauve des vies, qui s'attaque aux trafiquants, un mécanisme européen de recherche et de sauvetage en mer, qui utilise l'expertise, d'ailleurs, de tous les acteurs impliqués, c'est-à-dire les États membres, la société civile. On ne peut pas laisser simplement à des initiatives privées et à des bateaux affrétés par les ONG le soin d'aller récupérer les migrants.
Dernière question, Pierre-Henri, dites-moi s'il vous plaît, vous qui êtes le spécialiste justement sur cette question, le président de France Fraternité, la France risque de se retrouver confrontée justement à cette difficulté, vous parlez de difficulté, à ce débat d'ailleurs qui s'est retrouvé au sein de l'Assemblée nationale, notamment avec d'un côté l'extrême droite qui parle de laxisme, la loi de concernant les migrants de Gérard Darmanin, et puis le chef de l'État qui avait évidemment fait des promesses. Vous dites quoi ?
Ah ben, je dis qu'une fois de plus, l'immigration se retrouve instrumentalisée et que ce n'est pas la bonne solution. Qu'il faut se mettre autour de la table, trouver des mécanismes communs à la fois de sécurité et de protection, de sécurité évidemment des populations européennes, ça veut dire que quand les migrants arrivent, on doit savoir qui arrive sur le territoire, de protection des migrants et ceux qui relèvent de l'asile, eh ben, ils doivent pouvoir bénéficier. Mais tout ça, ça doit se faire dans le calme et non dans la surenchère, comme on l'a aperçu encore une fois dans un spectacle déplorable à l'Assemblée nationale cette dernière semaine.
Merci Pierre-Henri d'être intervenu dans
Merci
Les Informés.
Adil.
Et au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. À la semaine prochaine avec plaisir. Allez, tiens, on a essayé de retrouver Abdel de Bastia. Est-ce que vous nous entendez cette fois-ci, Abdel de Bastia?
Oui, je l'entends très bien.
Voilà, c'est nettement mieux. Voilà, nettement mieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Abdel?
Alors moi, je suis pâtissier.
Oh là là, c'est bon tout ça. C'est bon. On va arrêter là.
On va arrêter.
Absolument. Mon cher Abdel, bon, bienvenue. On vous écoute.
Ben merci. Et ben moi simplement c'était pour le harcèlement scolaire et c'est quelque chose qui me rend, quelque chose que je pense que tout parent ça touche. Donc la seule solution c'est vraiment de communiquer avec les enfants et d'être à l'écoute. Si on voit qu'un enfant n'a plus envie d'aller à l'école subitement, c'est qu'il y a un malaise.
Exactement. Vous avez tout dit.
Donc voilà. Alors c'est pas la peine de chacun à son côté laisser, oui, mais il n'a pas envie d'aller à l'école et de trouver une excuse. Non. Faut creuser. Chercher les causes. Après, une fois qu'on trouve les causes, il faut avoir les armes pour pouvoir communiquer avec, bien sûr, l'école et tout ça. Mais je pense que il y a, sur les pays de l'OCDE, il y a entre 15 et 20% de harcèlement. C'est énorme. Il y a entre 1,5 et 2 élèves sur 10 qui sont victimes. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus touché qu'on imagine. Et le mal est plus profond.
Exact.
Ah, surtout avec les outils numériques, il y a encore plus d'harcèlement. Donc, on a bien vu la triste histoire qu'il y a eu à cause de harcèlement. Donc, c'est vraiment plus profond. Et je pense que l'État, il doit vraiment prendre à bras de corps ce problème, surtout avec les outils numériques. Il y a un harcèlement, mais c'est parti en cacahuète.
Exactement. Merci du côté de Bastia, Abdel, d'être intervenu.
Je vous remercie.
Et
merci à vous.
N'hésitez pas, évidemment, à intervenir régulièrement dans Les Informés sur Beurre FM. 18h50, le face-à-face est parti. Merci à vous.
Les informés, le face-à-face.
Et j'irai accueillir volontiers les autres auditeurs qui continuent de nous appeler et qui sont en attente. Mon cher Nadir Kaya, comment ça va?
Bonsoir Adil, bonsoir à tous. Ça va très bien. Oui, mis à part les bouchons sur le périphérique.
Bien. Voilà, tournez. Voilà, super.
Donc, mis à part les bouchons sur le périphérique, ça va.
C'est infernal, hein.
C'est compréhensible au vu de la situation. Il y a une grève et puis il y a les départs en week-end prolongé.
Oui. Parlons-en justement. Farid Temsamani, ça faisait un moment. Dites donc, comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver.
Bonjour à tous. Bonjour Adil. Bonjour les auditeurs.
Ça va?
Très bien.
Oui. Bon, messieurs, parlons de grève justement. La grève aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que c'est un jeudi noir? La grève a-t-elle eu, les syndicats ont-ils eu justement cette fameuse requête, c'est-à-dire un mot d'ordre, revalorisation des salaires? C'est très à la mode en ce moment, hein, là, revaloriser les salaires. Parlons-en, Farid Temsamani.
Bah, ça paraît complètement normal quand il y a une inflation galopante dans la réalité, puisque les statistiques, en fait, essayent de la minorer, notamment à l'INSEE, etc. La réalité, c'est que, notamment, les Français les plus précaires, qui ont un reste à vivre, c'est-à-dire un montant à la balle avec des salaires très très faibles, justement, pas très élevés, bah, quand vous avez une inflation qui est hallucinante, que ça soit sur tout type de produit, bah, forcément, il vous reste plus grand-chose.
J'ai bien noté un truc qui dit, le 9 du mois, je suis à découvert de 300 euros.
Oui, il y a
beaucoup comme ça.
Beaucoup de gens comme ça. Sauf que
le découvert, alors du moins je sais pas, mais le découvert en fait c'est quelque chose qui a souvent touché les gens les plus précaires. La difficulté c'est qu'avec une inflation, je dis une bêtise, la baguette de pain qui augmente régulièrement. Alors il y a des explications pourquoi elle augmente, etc. Mais vous avez des gens qui peuvent plus s'en sortir tout simplement. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on est dans un pays où globalement, en fait, on essaye de minorer tout ça, de dire non, ça va passer, non, c'est pas grave, etc. Mais dans les faits, vous avez des gens qui en peuvent plus, tout simplement. Je dis une bêtise. Souvenez-vous comment les gilets jaunes ont augmenté, sont apparus. C'est qu'à un moment donné, vous avez des gens qui ont un reste à vivre, je dis une bêtise, pour quelqu'un, pour un père de famille, par exemple, qui pouvait offrir un restaurant à sa fille ou à son fils, dont il n'avait pas la garde, par exemple. Bah là, à cause de l'inflation, c'est quelque chose de très concret, il peut plus le faire. Donc vous avez des gens qui en souffrent et qui en pâtissent.
Eh bien, on continue d'en parler. Je suis obligé, je lance juste la pub et on se retrouve avec le point de vue de Nadir Kaya. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, 18h55. C'est aussi avec Nadir Kaya et Farid Temsamani. Nadir Kaya.
Oui, non, mais alors, juste
cette grève, ce Farid, cette évolution des salaires, revalorisation, et vous voulez réagir aux propos de Farid Temsamani.
Oui, déjà dans un premier temps, dire que le 9 du mois pour certains, c'est même pas le 9 du mois, hein, c'est dès l'instant où on reçoit le salaire, on paye tout ce qu'on a à payer, les charges, s'occuper des enfants, les différents paiements qu'il y a comme pour un foyer moyen, déjà à la fin du mois, dès l'instant où vous avez reçu votre salaire, c'est déjà fini. On prie pour ne pas avoir un incident sur un véhicule ou des travaux à faire parce que ça va déséquilibrer le budget. Donc ça c'est à peu près pour des familles qui sont à peu près constituées normalement à travers leur salaire. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on disait même en off, bien sûr qu'aujourd'hui l'inflation elle est galopante et d'après ce qu'on entend dans les médias, ça va pas s'arrêter comme ça. Donc on va peut-être atteindre un chiffre jusqu'à 2, on parle de 7 jusqu'à voire 10%, et ça c'est des estimations, voilà. Mais aujourd'hui ce qu'il faut savoir, bien évidemment la vie est de plus en plus chère, les produits, il suffit de faire ses courses régulièrement pour comprendre que tout a augmenté. Mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je disais avant, je sais pas si on peut aborder la question des syndicats, parce que les syndicats ont une très mauvaise image en France, et c'est voulu volontairement de la part des politiques. On fait croire que les syndicats, ce sont les méchants, ce sont des gens qui ne font que des grèves, qui vivent de privilèges, c'est pas du tout ça. Les grèves, c'est qu'une partie de leur mission. Je rappellerai que la plupart des syndicats sont des élus, j'en suis un, donc je sais ce que c'est. C'est du travail au quotidien avec les salariés, c'est de la communication, c'est aussi remonter des informations pour travailler avec la direction. Mais s'il n'y a pas ce rapport de force à un moment donné, c'est que c'est les responsables d'entreprise ou les politiques qui ne veulent pas lâcher les choses. Donc aujourd'hui, s'il y a la capacité de certaines organisations syndicales de pouvoir se mobiliser, c'est parce que de l'autre côté, on ne veut pas faire les choses. Et je rappelle les choses, quand les choses vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que malheureusement, il faut parfois arriver à une grève pour obtenir ce qu'on demande légitimement, tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. Moi, je le dis dans mon entreprise, qui reste quand même une entreprise internationale, quand on se bat. Là aujourd'hui, c'est sur la prime Macron. La prime Macron. Bon, Macron a mis tout un ensemble de mesures.
Donc, on bénéficie de ça justement.
Oui, mais moi, je fais partie d'un groupe.
La moyenne, c'était 715 ou 716 euros.
Ça dépend. Il y a eu plusieurs actions. Il y a la prime de 1500. La dernière, l'une des dernières, c'était de 3000 à 6000 avec des exonérations de charges. Nous, on est parti dans ce sens-là. Ça fait un mois qu'on se bat avec notre direction pour l'obtenir. C'est très difficile. C'est très difficile. Pourtant, il y a des exonérations de charges. Mais notre entreprise va très bien. Elle est leader dans son domaine. Et pour autant, si nous, on n'est pas là pour obtenir une prime, on ne l'a pas. C'est toujours un rapport de force, malheureusement, qu'il faut imposer à des entreprises ou à des directions qui, pourtant, notamment pour les grandes sociétés, fonctionnent très bien. Donc là, les Français, faut comprendre une chose. S'il y a des avancées sociales, et historiquement c'est le cas, c'est souvent lié à des sacrifices de syndicats ou d'élus. Les choses ne se donnent pas comme ça dans le milieu du travail, et de façon générale dans la vie aussi.
Farid Temsamani, finalement, est-ce que cette évolution depuis ces dernières années, est-ce qu'il faut revaloriser les salaires? Est-ce qu'il faut revoir les salaires? La hausse des salaires doit s'imposer justement aujourd'hui, plus que jamais. Parce que quand on... par exemple, Nadir Kaya vous dit que dans les mois à venir, eh ben justement, l'inflation va connaître de l'ampleur.
Mécaniquement, en fait, on va devoir revaloriser les salaires. Je rappelle que en France, jusqu'au début des années 80, c'était notamment le tournant de la rigueur et de l'austérité sous Mitterrand en 83, en fait, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Je rappelle qu'en 2022, à l'heure où on parle, certains de nos pays voisins, notamment la Belgique, probablement le Luxembourg également, les salaires sont indexés sur l'inflation. Et en France, le seul salaire qui est indexé sur l'inflation, c'est le SMIC. Mécaniquement. Et rappelez-vous, les gouvernements successifs, quels qu'ils soient, en fait, généralement, ne voulaient pas donner de coup de pouce au SMIC, mais par contre, l'inflation, parce que c'est la loi, leur permet d'avancer. Et aujourd'hui, vous avez le SMIC qui rattrape les petits salaires. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il va y avoir une augmentation. Sauf que la machine économique...
En Donc fait, si on augmente d'un côté, on leur réalise le SMIC alors.
Mais c'est
on
ce augmente va, aussi mais le SMIC. Mais c'est ce qui va se passer. On peut avoir tous les discours politiques que l'on veut. Dites-vous bien une chose, dans les mois à venir, il va y avoir une revalorisation. La seule contrainte...
Y compris le SMIC.
Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, si je peux me permettre.
Y compris le SMIC.
Parce que ça, c'est...
Y compris le SMIC.
Non, peut-être un peu moins le SMIC. Mais quand vous travaillez, je dis une bêtise. Le SMIC, aujourd'hui, il est à peu près de, si je ne dis pas de bêtises, à 1150 net ou quelque chose comme ça, en salaire net. Vous avez des gens qui travaillent, qui ont des salaires qui ne sont pas au SMIC, mais qui touchent 1200 euros, par exemple. 1200, 1200, 1300 euros. Quand vous avez un SMIC qui augmente et qui se rapproche du petit salaire, vous avez des gens psychologiquement qui disent « Mais moi, j'ai pas été recruté au SMIC. » Donc du coup, ils vont réclamer ça. Et là où Nadir a raison, effectivement, c'est une bataille notamment des organisations syndicales.
Puisque vous parlez des salaires indexés justement sur,
mais oui,
sur l'inflation.
Là, pourquoi en France c'est un tabou? Pourquoi c'est un tabou? Parce qu'en fait, en 83, il s'est passé quoi? C'est la suite des deux chocs pétroliers notamment, et surtout, c'est l'application du programme de Mitterrand suite à sa victoire en 81, qui fait qu'en fait, il a d'un coup, d'un point de vue économique, donné beaucoup aux salariés. Tant mieux pour les salariés à l'époque. Sauf que, en fait, il y avait moindre d'inflation qu'à la fin des années 70, ce qui fait qu'en fait, il y a eu un déséquilibre. Et aujourd'hui, aucun...
Et puis, il n'y avait pas l'euro. Il y a aussi le souci de l'euro, la fameuse arnaque de l'euro.
Mais ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un tabou au gouvernement et pour le président de la République, parce qu'on ne veut surtout pas s'emballer. Pourquoi on ne veut pas s'emballer? Parce qu'on a un exemple qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, où l'inflation est extraordinaire, où les salaires sont malheureusement, ou heureusement, en fait, évoluent également. Ce n'est pas le même système, je rappelle. Et donc, en fait en France, on veut essayer de contrôler tout ça. Mais à un moment donné, la machine, elle va être obligée de se dérégler, et vous allez mécaniquement, on le voit de toute façon, les salaires n'augmentent pas, mais il se passe quoi dans la réalité économique? Il se passe qu'en fait, l'énergie augmente,
les loyers, on peut commencer, etc., par la base. Hein,
donc vous avez des entreprises,
la première sortie d'un...
des entreprises qui répercutent. Je veux dire, quand vous avez un produit ou un service avant...
Oui, mais il est où, moi, si je peux me permettre, il est où le blocage? Alors, parce qu'on a des spécialistes qui nous expliquent...
Vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que j'arrive pas à comprendre la réflexion ou le repère, parce que à un moment donné, il y a des experts économiques qui vous expliquent tout ça, mais depuis le temps, on est en 2022, pourquoi ça change pas à ce niveau-là, tout simplement?
Sur quoi?
Sur l'augmentation des salaires, sur le SMIC, on entend souvent les partis, notamment le NUPS et tous ceux qui composent le NUPS aujourd'hui, vouloir augmenter le SMIC. Moi, je suis aussi pour revaloriser le SMIC, mais un vrai montant. On a parlé souvent de 1500, mais aujourd'hui c'est dépassé.
Non,
même
en fait,
1500 euros pour le SMIC, c'est invivable quand vous voyez que des loyers, des petits loyers pour un 3 pièces ou un 4 pièces, vous avez déjà des loyers à 700, 800 euros.
Je
parle déjà en HLM. Hein.
Ouais. Je ne parle pas d'accord. Privé, vous répondez justement l'échange, je vais être intéressant. Alors, Farid.
L'histoire de la NUPES, le SMIC à 1500, etc., en fait, c'est de l'affichage marketing. Pourquoi? Tu me connais, je ne suis absolument pas d'extrême gauche pour un sou. Je suis pour une valorisation des salaires. Pour une raison très simple, c'est que humainement parlant, ça ne peut plus tenir. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi les gouvernements, quels qu'ils soient, font très attention? L'économie, c'est un rapport de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, en France, pas qu'en France d'ailleurs, en fait, c'est un rapport de confiance. C'est-à-dire que si vous augmentez d'un... Les gouvernements pensent que si on augmente d'un coup trop les salaires, en fait, la machine de la confiance va se casser. Et de l'autre côté, si vous ne les augmentez pas assez, eh ben, les gens sont dans la véritable difficulté, avec potentiellement une crise sociale qui peut éclater très forte, etc. Pourquoi on va être obligé d'y arriver? Pour une raison très simple. C'est que l'immense majorité du tissu économique en France, ça n'est pas les entreprises du CAC 40.
Non, c'est les petites et moyennes entreprises.
Les petites et moyennes entreprises. Ça, tout le monde le sait. Sauf que ces petites et moyennes entreprises, en fait, elles vivent comme n'importe quel autre particulier. C'est-à-dire qu'elles répercutent finalement l'inflation, que ce soit l'énergie, que ce soit plein de choses, les salaires, parce qu'en vérité, il y a aussi dans certains secteurs une guerre de savoir les meilleurs profils, comment les attirer, etc. Et donc, du coup, je dis une bêtise, mais la baguette que j'ai achetée 90 centimes, je caricature, bah, aujourd'hui, elle vaut 1 euro, 1 euro 10, et vous êtes obligé de la répercuter. Donc, c'est toute une chaîne. Sauf que ça prend un peu de temps. Pourquoi? Parce que, à la réalité, au final, eh ben, les gens, en fait, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, et notamment les gens les plus précaires. Et je terminerai juste sur une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du reste à vivre. Quand vous avez des salaires, quand vous êtes aisé, vous avez des salaires un peu conséquents, et que votre reste à vivre, en fait, est important. Il y a une inflation, vous en avez un peu moins. Mais c'est très supportable. Je dis une bêtise. Encore une fois, je caricature volontairement.
On a compris.
Au lieu d'aller 5 fois par semaine au restaurant, vous allez y aller que 4. façon de parler. Par contre, quand votre reste à vivre, il est à la base très faible. On parlait tout à l'heure du découvert de la personne qui était à découvert le 9 du mois. Mmh. Eh ben, en fait, celle-ci, quand le reste, c'est plus le 9 du mois. C'est-à-dire que le salaire n'est même pas versé.
C'est ce que disait
Nadir. C'est ce que disait Nadir, qu'il y a déjà. Et donc, c'est pour ça que c'est plus possible. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y aura forcément une augmentation des salaires.
Non, mais.
Oui. Alors, messieurs, nous allons avancer parce qu'effectivement, il est 19h04, précisément 5 même d'ailleurs, sur Beurre FM, dans les informés. Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, vous pouvez aussi, vous aussi, venir commenter l'actualité avec nous au 0153 48 3000. L'atteinte au principe de la laïcité. Des chiffres records en octobre. 720 signalements pour atteinte à la laïcité. Vous savez quoi? Je vais vous donner des chiffres, vous allez les commenter ou en parler parce que, bon, aujourd'hui, c'est aussi une réalité. Cette laïcité à l'école, des chiffres qui ont doublé. Je sais que Nadir, c'est des sujets, vous, qui vous heurtent. Mais bon, alors, qu'est-ce qui est en tête? On a une forte part de ces incidents, 40% concernent le port de signes de religieux. 54% en septembre, et bon, en octobre, ça a doublé. On a des provocations verbales, 14% contre 5% en septembre. On a la contestation d'enseignement, 12% contre 7. Le refus des valeurs républicaines, 9 contre 2. Les revendications communautaires, 6 contre 7. Le refus d'activité scolaire, 5 contre 7. Bref, je peux continuer comme ça longtemps. Ça concerne les collégiens, les lycées. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce que, comme certains auditeurs tout à l'heure disaient, mais moi je ne crois pas du tout à tous ces signalements, et arrêter de pointer du doigt les Français qui sont de confession musulmane? Nadir Kaya.
Oh, il faut être très clair, quand on parle laïcité aujourd'hui, on parle musulman. Il faut être très clair, en France, quand le mot laïcité il est lâché, ou quand il y a un débat là-dessus, c'est pour viser exclusivement les musulmans. Et quand je dis les musulmans, je suis convaincu, je suis musulman de confession, je l'assume, je le revendique aussi. Ça fait partie aussi de la fameuse laïcité française dans son sens originel, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris de la laïcité. J'ai le droit d'être français et d'assumer pleinement ma foi. Ça fait partie aussi de nos valeurs universelles.
Alors, c'est signalement dans les collèges.
Malheureusement, aujourd'hui en France, on a travesti la laïcité et beaucoup de gens, notamment du côté droite, voire de l'extrême droite, se sont emparés de cette laïcité et puis l'ont mis à leur sauce. À leur sauce, c'est-à-dire à une sauce haineuse, à une sauce stigmatisante. Et ils font croire que les musulmans, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la communauté musulmane, moi aussi je suis très critique sur certains comportements de la communauté musulmane, ou certains musulmans, ou alors voire même de certains représentants dits de la communauté musulmane, mais aujourd'hui le vrai sujet, notamment l'école, pour moi j'aimerais qu'on fasse une enquête sur la qualité de l'école, sur le manque de moyens. Et je pense que si on commençait par ça, on aurait peut-être moins de problèmes avec des minorités ou des gens de confession musulmane dans nos écoles. Pourquoi? Parce que on a lâché depuis très longtemps en France l'égalité de chance, l'égalité au savoir, l'égalité à la qualité du savoir. Et en France, c'est ça le vrai problème. Au-delà du fait que dans les quartiers, il y aurait des gens qui souhaiteraient aller à l'école avec un voile ou avec un camis, comme on dit, c'est possible. Moi, bon, j'ai pas vu encore de jeunes aller à l'école en camis, mais on a vu quelques images. C'est possible, mais ça reste tellement minime que franchement, ça m'intéresse pas de réagir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a une manipulation politique et médiatico-politique depuis des années sur ce sujet-là, qui masque les réalités en France. C'est pour ça qu'on reviendra toujours sur la même chose, quel que soit le sujet, droit et devoir. En France, nous avons des droits, nous avons des devoirs. J'invite tous les Français, musulmans ou non musulmans, à s'inquiéter de ce qui se passe en France et à surtout s'impliquer, quel que soit le niveau d'implication dans le domaine associatif, dans le domaine politique. Aujourd'hui, on peut plus accepter ces politiques qui ne vivent que de la division des Français.
Farid Temsamani, sujet sensible.
Il est plus que sensible parce que un, c'est une réalité. Pourquoi on n'en parlait pas forcément avant? Je rappelle que pendant très longtemps, le ministère de l'Éducation nationale ne communiquait pas sur ces fléaux, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est une pure réalité. Alors contrairement à ce que dit Nadir, la laïcité, en fait, elle n'est pas contre les musulmans. La laïcité, en fait, c'est une philosophie historique qui prône l'égalité dans l'espace, dans la République. La République est née de la laïcité. Les gens oublient très souvent.
Et qui garantit la liberté de culte.
Mais, alors, ça, c'est le processus de la loi de 1905, mais tu as complètement raison. La laïcité, c'est un truc très, très, très simple. C'est la philosophie de la laïcité, c'est égalité pour tous, la religion, tu la gardes chez toi. globalement, c'est ça, la laïcité.
Je suis pas d'accord. Non, mais, le chez toi,
la philosophie,
non.
Non, mais la philosophie. Non, mais,
même s'il y a une loi là-dessus qui a restreint.
Il n'y a pas de loi, justement, là-dessus. Non, enfin, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de loi sur la laïcité en France.
Non, ça n'existe pas.
Sur
la laïcité. Par contre, parle sur le port du voile, sur certains signes.
Le socle de la République française, et c'est là qu'en fait, on a beaucoup menti aux gens. Le socle de la République française, c'est la laïcité. Je vais revenir sur un point qui est très fondamental. La laïcité n'est pas née. Il n'y a pas de loi. Je mets au défi qui que ce soit de trouver.
Oui, d'accord, c'est une philosophie.
Je mets, par exemple, très souvent, les gens font une erreur. Par exemple, ils disent ah bah il y a la loi de 1905, c'est la laïcité. Pas du tout. Je mets au défi qui que ce soit de trouver le terme laïcité dans la loi de 1905. Premièrement. Et deuxièmement, il y a un truc. Pourquoi l'école? Pourquoi probablement l'école? Parce que les grandes lois qui touchent à cet esprit philosophique de la laïcité, c'est les lois sur l'école. C'est Jules Ferry. C'est 1870, où il dit quoi? Il dit, l'école, c'est l'égalité pour tous. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, l'école est publique. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une fille, l'école, c'est pour tout le monde. C'est ça, la laïcité. Les gens oublient très souvent. Et donc, on dit, d'ailleurs, pourquoi ces questions-là ne se posent pas dans le supérieur?
C'est surtout la séparation, c'est surtout l'esprit de la séparation des pouvoirs.
Non, pas du tout. Absolument pas.
Revenons à notre sujet, Paris. C'est le traumatisme. Pour quelle raison on parle d'aujourd'hui, de cette atteinte au principe de la laïcité dans les collèges et les lycées?
Parce que c'est toujours la même rengaine. C'est ce qu'on appelle l'arlésienne. C'est que Nadir parlait tout à l'heure de religion, par exemple.
Les trois.
On est dans un pays, par exemple.
On vise clairement le port de signes et tenues religieuses.
Mais pourquoi? Non, mais faut le dire. Il a raison, par contre, là-dessus, Nadir. C'est qui est essentiellement visé aujourd'hui? C'est la religion musulmane. En tout cas, pas la religion.
Je l'ai dit tout simplement.
C'est les gens qui se réclament de la religion musulmane. Pour une raison très simple. C'est qu'effectivement, le fait religieux. Le fait religieux, en fait, la laïcité ou un certain nombre de sujets ont été absorbés avec le temps sur les autres religions. Essentiellement, par exemple, la religion catholique qui est majoritaire dans notre pays. Et donc, du coup, en fait, la laïcité, en fait, a fait son travail de régulation avec ce fait religieux. Alors bien sûr, pour certains, pour défendre, vont dire ah mais voilà, moi il m'arrive de croiser des bonnes sœurs voilées par exemple. Je dis une bêtise. Attention, juste pour nos auditeurs qu'on soit bien clair, j'essaie de faire acte de pédagogie. J'ai pas dit que j'étais forcément pour ceci ou pour cela. C'est un acte
vous
de pédagogie.
Vous dites qu'il y a une réalité.
Il y a une réalité.
Que va-t-il qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh ben le problème c'est que ce qu'il faudrait faire ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce qu'en fait le fait religieux aujourd'hui n'est pas isolé. Pourquoi ces chiffres-là? C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux gens, par exemple, eh ben, telle chose, c'est plus possible. Parce qu'on leur a vendu le contraire pendant 30 ans. Donc, la correction, ce que essayent de faire certains, en fait, elle est violente. Quand Nadir dit, la laïcité, en fait, elle s'est emparée, enfin, l'extrême droite ou la droite dure s'est emparée de la laïcité, c'est complètement vrai. Il faut juste rappeler une chose. La laïcité, qui a créé la laïcité en France? Qui a créé la République française? C'est pas la droite.
Non.
C'est la gauche. La laïcité, c'est un véritable socle de gauche. Et c'est là qu'on voit un vrai problème et que la manipulation, en fait, elle est de tous bords, par exemple. C'est-à-dire que les vrais sujets de laïcité, au lieu, les gens ne le savent pas, par exemple, la laïcité en France, la notion républicaine...
Mais que doit faire l'éducation nationale face à ces signes?
Elle doit être intransigeante, pour une raison très simple. C'est quoi l'éducation nationale? C'est quoi l'éducation nationale? C'est le fait de permettre à qui que ce soit, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez une fille, un garçon, que vous soyez né en France, pas né en France, d'avoir les mêmes
égalités.
Là où tu as raison.
Donc intransigeante, c'est en direction des élèves.
Sauf que
des élèves.
Et moi je vais vous dire, parce que moi je donne des cours, j'enseigne. Sauf qu'en particulier j'enseigne. Eh bien, un enseignant ne doit pas avoir de différence que la personne soit originaire ou qu'elle est de telle ou telle religion. Ça n'est pas possible. Comme un élève ne doit pas savoir.
Alors, si vous êtes prof, vous le dites, si vous avez un élève qui arrive avec un signe religieux, voilà, et qui revendique ce signe religieux.
Il faut de la pédagogie pour lui dire c'est pas possible. Il faut être intransigeant là-dessus. Vous savez pourquoi il faut être intransigeant?
Moi, je suis pas d'accord là-dessus parce que c'est ce qu'on vend depuis des années.
Laisse-moi terminer une chose. C'est que, en fait, il y a deux visions de la société. Il y a la vision, ce qu'on appelle républicaine, c'est-à-dire un universalisme. C'est-à-dire que vous soyez Nadir, Adil ou quoi que ce soit, je vous traite de la même manière quand je suis l'État, quand je suis l'instruction publique, je vous traite de la manière. Et ensuite, il y a la vision anglo-saxonne, individualiste, qui est de dire, non, je prends en considération les particularismes des uns et des autres. Pourquoi ça pose problème aujourd'hui et pas avant? Parce qu'en fait, il y a une histoire de chiffres. le fait religieux pendant très longtemps en fait a été minorisé.
Le chiffre de visibilité.
Alors, mais tout simplement, complètement.
Nadir,
tout simplement,
Nadir.
C'est ça.
Non, mais avant de marquer la pause.
Non, mais on est d'accord sur la fin. Après, il y avait des choses sur lesquelles je voulais intervenir, mais là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'intervenir. Ce qui dérange, au-delà du fait qu'il y a une minorité qui serait gênante de par leur comportement, c'est ce nombre. Si je peux me permettre, aujourd'hui, les musulmans sont ou nous sommes des millions en France. C'est ce qui pose problème. Donc, en termes de visibilité, c'est ce qui dérange beaucoup. Après, le fait vestimentaire, moi personnellement, aujourd'hui, je pousse la réflexion et moi, je suis pas d'accord avec Faris qui disait parce qu'on nous a vendu le fait que il fallait maintenant, depuis quelques années, sous prétexte de la laïcité, mettre ces faits religieux de côté ou à l'entrée. Je suis pas tout à fait d'accord.
C'est
parce
le
que
principe de la République.
Non, je suis pas d'accord. Là aussi, il y a débat. Je ne vois pas où c'était inscrit dans les actes premiers de la laïcité ou de la Révolution française à ce niveau-là.
Bah, ça s'appelle l'universel. En fait,
non.
La République.
On peut être dans l'universalisme tout en étant assumé dans sa foi, dans sa religion.
Tu veux rigoler, Nadir ?
On marque la pause et
allez,
se retrouve.
Ça marche.
On marque la pause. Très intéressant. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
À 19h23, le débat continue dehors, y compris pendant la pub. Effectivement, avec les informés, dernière ligne droite, 19h23 avec Nadir Kaya, mais également, oui, c'est ça, c'est du sport, et Farid Temsamani. Nadir Kaya, avant de passer au sujet concernant le harcèlement scolaire.
Alors, on en était où là?
On en était justement, le débat qui s'installait entre vous.
C'est pas arrêté, surtout.
Le débat a continué.
Ouais.
Donc là, on parlait de quoi exactement?
Non,
toujours ces signes ostentatoires à l'école avec ces fameux sondages qui montreraient une dégradation de la situation et le fait que les méchants musulmans voudraient...
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais voudraient aussi rendre l'école républicaine musulmane.
Il n'y a pas que les musulmans.
Non, mais là, on parle que des musulmans. Il faut être clair, on va pas parler des autres. Parce que quand on sort ces sondages-là, c'est toujours pour viser les mêmes. On va pas non plus être
naïf. Non, je suis pas d'accord. Parce que l'école, je vais te dire... parce que moi, je les lis, ces rapports, et notamment c'est de l'éducation nationale. Il y a un phénomène, par exemple, d'entrisme, notamment d'église évangélique. D'accord, qui est très important. Et tu as la
Je suis désolé parce que tu m'as coupé deux fois, mais moi aussi,
oui,
je peux te couper.
Pardon. Non, je te demande pardon.
Parce que ces rapports-là, quand on fait ces rapports-là, et qu'on parle d'autres fois ou d'autres situations liées à d'autres extrémistes ou d'autres comportements qui sont eux-mêmes le fruit d'autres religions, d'autres. Mais ça, c'est pour noyer le poisson, parce qu'on revient sur le fond. Le fond. Bah si, parce que ça n'existait pas avant. Il y a 10-15 ans, tous ces sondages-là n'existaient pas. Et je pense qu'on avait déjà les renseignements. Simplement, c'était pas d'actualité, c'était pas intéressant
non,
à vendre. Aujourd'hui, ça vend.
Oh, c'est là que je suis
aujourd'hui,
pas d'accord avec toi.
Le chat, aïe,
on en parle. On en parle.
Pourquoi tu parles de 10-15 ans?
Oui.
Qu'est-ce qui, ces statistiques-là, encore une fois, quelles que soient les étiquettes politiques, ces statistiques ont été rendues publiques par qui?
Par l'Éducation nationale.
Mais qui, précisément?
Tu vas me dire la gauche?
Non, c'est pas une question de gauche ou droite, c'est pas ça. C'est par Blanquer. Blanquer, c'est il y a quoi? C'est il y a 5 ans, même pas. Tu comprends? C'est-à-dire que jusqu'à il y a 5 ans, donc là, c'est pas une question de Mitterrand ou de François Hollande ou quoi que ce soit. Même la droite, en fait, voulait pas en parler. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, on pensait que le phénomène allait s'éteindre. Tout simplement. La difficulté, c'est que non seulement il ne s'éteint pas.
Alors, s'il pensait déjà à cette époque-là, c'est déjà une erreur. Parce que les musulmans
beaucoup d'erreurs là-dessus.
Sont de plus en plus nombreux et vont être encore de plus en plus nombreux quand on regarde la
situation. Est-ce qu'ils seront de plus en plus pratiquants?
Alors ça, il y a que Dieu qui le sait.
Oui, je suis d'accord.
Je pourrais pas me permettre
Si on veut faire
c'est pas le fait de savoir s'ils sont de plus en plus pratiquants, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont musulmans.
Mais si, Nadir.
On va pas rentrer dans le débat, comme j'ai entendu dire.
Nadir.
Musulmans pratiquants, non pratiquants.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis.
Un Français, un politique, quand il parle de ces sujets-là, s'il te voit toi physiquement,
Nadir,
même si tu n'es pas pratiquant, il voit un musulman.
Non,
voilà, on nous a habitués à faire comme ça aujourd'hui.
Oui,
voilà.
Mais c'est pas ça.
Arrête
Tam Samani.
Il faut qu'on avance, messieurs.
C'est pas ça que je te dis, Nadir.
Dernière parole et après ensuite on avance.
Ce qui pose problème, c'est le fait religieux. On va pas se mentir. Le fait religieux, c'est quoi? C'est le fait d'afficher sa religion dans l'espace public.
Qui pose problème à qui?
À la masse de la population.
Mais pourquoi la masse de la population? À ce qu'on leur vend?
Mais non, mais c'est là
que, moi je pense
c'est
que là globalement que les Français vivent très bien ensemble. Non, c'est ce que c'est,
alors,
désolé, Farid, d'insister. Là, c'est ce que tu dis par rapport à l'impression ou l'opinion publique qu'elle peut avoir, notamment concernant les musulmans, en disant oui, ça pose problème. C'est pas vrai parce que. Et puis tu l'as bien vu.
Nadir.
Là, quand on est arrivés tous les deux, on a croisé un monsieur de confession musulmane. Je me suis même permis de lui dire.
Israélite.
en tant que juif, est-ce que vous avez un problème du fait d'avoir la kippa avec des musulmans? Il m'a dit, oui. Il nous a dit
pas
quoi? Non, pas du tout. Je vis avec des musulmans depuis très longtemps. J'ai jamais eu de problème avec eux.
Alors,
voilà. Et je lui dis, c'est exactement. Vous dites pas ça à la télé parce qu'on a l'impression qu'en fin de compte,
ça, c'est une erreur fondamentale de faire une comparaison.
C'est pas une comparaison. Je prends un exemple par rapport à une réalité précise. Oui. Aujourd'hui, ce monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui est de confession musulmane, juive, moi je suis musulman, j'ai juste posé la question devant toi, est-ce qu'aujourd'hui il se sent en insécurité du fait de porter la kippa et donc d'être juif? Il nous a dit quoi? Non, je vis avec des musulmans depuis toujours, ça se passe très bien. Oui. Bah, je lui dis, c'est dommage parce que, en réalité, dans les médias, on donne l'impression que ça ne va pas.
Preuve. Ça n'existe pas?
J'ai pas dit que ça n'existait pas.
Ah, bon,
ah non, mais moi j'ai pas de débat là-bas. Là-dessus, je t'ai dit, je suis très critique sur la communauté musulmane, sur certains comportements, ou même sur des comportements en banlieue. J'ai pas de débat.
Encore une fois,
l'image qu'on donne aux Français à travers les médias.
Effectivement,
je pense profondément que ça n'est pas une question de musulman ou d'islam. C'est une question de philosophie de la République. Mmh. La philosophie de la République dit quelque chose. Si je veux la caricaturer.
Mais là aussi, c'est une question aussi d'interprétation, non, mais... parce que quelle que soit l'idée qu'on a, la connaissance qu'on a de
la philosophie, c'est comme ça qu'elle a été. On peut faire une heure de débat. La philosophie de la République. Et on arrête là.
C'est quelque chose de très simple. C'est que quand je vois Nadir, je me fous de savoir de quelle religion il est.
C'est la théorie.
C'est ça la
très belle valeur, mais en réalité, c'est pas comme ça.
Pourtant,
allez messieurs, parlons de harcèlement scolaire. Autre sujet justement qui génère de la tension, vous savez. C'est le harcèlement scolaire qui concerne quand même 700 000 élèves en France. Alors comment faire pour protéger nos enfants, ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, mais surtout ce fléau. Comment lutter contre ce fléau, contre le harcèlement scolaire, Nadir Kaya?
Alors si je peux me permettre, ça c'est un vrai sujet.
Ouais,
c'est un vrai sujet parce que ça touche tout le monde. Il n'y a pas une question de musulman, pas musulman. On n'en a rien à foutre des religions, en fin de compte, c'est nos enfants. Voilà, c'est un vrai sujet. Pourquoi? C'est pas nouveau, hein. Le harcèlement, on l'a toujours connu dans l'enceinte de l'école républicaine. Vous avez toujours, c'est humain, vous avez toujours des enfants, parce qu'on le voit, la violence, elle commence très tôt. On a toujours cette impression que les enfants sont des anges et que tout se passe bien, mais c'est pas vrai. Pour avoir des enfants et pour avoir suivi mes enfants jusqu'à maintenant, en primaire et même en élémentaire, vous avez aussi de la violence entre les enfants. On a connu ça, oh le gros, oh le grand, oh le petit, oh le noir, le blanc et tout ça.
L'handicapé.
Ça c'est déjà l'handicapé, celui qui ne peut pas, celui qui réussit pas, celui qui ne sait pas. Ça, c'est entre guillemets, c'est des comportements humains. Maintenant, comment on peut régler ça? Bah, c'est toujours pareil. Après, c'est vrai qu'il faut revenir sur l'éducation par l'éducation nationale. Le vrai terme, c'est enseignement national, parce que l'éducation se fait à la maison. Ça, c'est la première des choses. Et s'il y a des comportements comme ça aujourd'hui,
on doit rendre l'antenne.
C'est souvent aussi le reflet d'une posture à la maison qui n'est pas suffisamment proche de l'enfant et qui fait que l'enfant peut avoir des comportements extrêmes à l'école.
Mais
après, il y a d'autres raisons.
Il y a une accélération du processus, malheureusement, à cause des réseaux sociaux.
Exact.
Et aujourd'hui, le harcèlement scolaire se fait très souvent à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est un vrai, véritable fléau. Et
c'est là, en train de se banaliser.
T'as complètement raison sur deux choses. Un, c'est très vieux, c'est pas nouveau. La violence, en fait, elle est très vieille là-dessus.
Oui, c'est vrai.
Et la difficulté, c'est que les moyens sont beaucoup plus importants. Et en fait, on l'a beaucoup,
Lutter?
Implacable. Comment on lutte pour ce genre de choses? En fait, c'est à travers des exemples. Le jour où, de manière très forte, vous allez avoir des exemples très, très forts, ben vous allez avoir un risque pour certains et donc, du coup, une diminution. Et encore faut-il que la justice puisse suivre en même temps.
Merci messieurs. Quel débat passionnant, je dois dire. J'ai envie de prolonger comme ça jusqu'à minuit. Avec vous, le face-à-face. Nadir Kaya, merci.
Merci à vous.
Farid Tamsamani, merci. Président de Banlieue Plus, consultant, évidemment, notamment spécialiste de l'Afrique.
Nadir Kaya, merci, président de Banlieue Plus.
Oui, c'est ce que je viens de dire.
Ah, pardon.
Bah oui.
Non, mais pour nos auditeurs, pour être tout à fait honnête, parce qu'on est tous les deux membres de l'association Banlieue Plus, mais vous avez vu que sur un certain nombre de sujets, on partage pas toujours la même
c'est
chose.
C'est bien, non? Mais nos idées divergent, ouais.
Exactement. Mais par contre, il y a quand même un seul intérêt dans l'association, c'est la défense des habitants des quartiers populaires.
Absolument. Bon courage à vous deux, messieurs, à la réalisation. C'était Anthony, merci aux nombreux auditeurs. Bilal Nenman, 20-21, Vanessa, 21h. Quant à moi, à demain, avec autant de plaisir. Mais d'ici là, on ne lâche rien. Bonne soirée.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.